Bienvenue à l'émission C'est classique, ici Chantal Lavoie. Aujourd'hui, j'accueille Béatrice Cadrin, rédactrice en chef du média numérique Ludwig van Montréal, consacré à la musique classique, une plateforme qui vous présente un calendrier des concerts et des événements sur la scène musicale classique à Montréal et à travers le Québec. Actualité, nouvelles, critiques, on en saura davantage sur ce bel outil pour tout savoir ce qui se passe semaine après semaine sur la scène classique de chez nous. Béatrice, qui sera une collaboratrice occasionnelle de l'émission, nous parlera de son parcours professionnel et personnel, mais aussi de son travail en tant que rédactrice en chef de Ludwig van Montréal. Mais d'abord, pour faire un lien, un peu de Beethoven pour commencer, un extrait de la symphonie numéro 7. On accueille Béatrice Cadrin, qui est notre chroniqueuse occasionnelle, enfin, rédactrice en chef de la plateforme Ludwig van Montréal, 100% numérique, hein, quand même. Et puis, bonjour Béatrice.
Bonjour Satan.
On s'est parlé brièvement dans une autre émission. Alors, ça a été bref. On a fait une espèce de survol de l'été, mais on savait bien qu'on allait se reparler, qu'on allait vraiment parler de tous les festivals un peu plus en détail et tout, de toutes les activités musicales en musique classique là cet été, mais j'avais envie qu'on partage un peu plus ton expérience, tout ce que tu fais, en fait parce que tu as fait beaucoup de choses jusqu'à présent et tu continues à en faire beaucoup. Et puis j'avais le goût qu'on puisse parler de toi. Alors, c'est ça, c'est parti, on parle de toi.
Eh bien, parlons de moi.
Alors donc, en fait, moi, je voulais, ben, d'abord, on rappelle que la plateforme, ou enfin ce magazine numérique Ludwig van Montréal, ça existe quand même depuis longtemps. Alors, c'est non seulement un calendrier, mais ça permet aussi de partager des coups de cœur, certainement, de partager des événements, des entrevues aussi.
Des entrevues, c'est ça. En fait, à la base, ça devait être un site de nouvelles. Puis à ça se greffent des entrevues, des critiques de concerts et effectivement les choix de la rédaction où on publie notre sélection de concerts pour la semaine pour c'est que ça. Les gens puissent choisir à quoi ils vont assister
exact.
Au cours de la semaine.
Et puis, bon, tu n'es pas seule, tu as des collaborateurs aussi, il y a des gens qui quand même gravitent un petit peu, mais tu en fais beaucoup.
J'en fais beaucoup, effectivement, mais oui, j'ai des collaborateurs précieux que j'envoie couvrir des événements parce que, vous savez, j'ai pas encore développé le don d'ubiquité, alors des fois, j'envoie, par exemple, Éric Champagne ou Julien Bilodeau, Audrey
oui,
Gauthier.
Qui sont eux-mêmes quand même des gens, des compositeurs.
Absolument,
compositeurs très, très connus, là, oui. Dans le milieu musical de chez nous, finalement, qui même écrivent pour l'opéra. Alors, c'est vraiment des gens extrêmement talentueux. Alors, tu as des collaborateurs de choix.
Tout à fait.
Et qui ont donc une belle
d'accord.
vision des
oui.
choses, une vision à la fois critique, mais je pense qu'on est quand même, on aime les gens, on aime nos musiciens et puis on aime en faire la promotion aussi.
Je pense que, oui, à la base, ce sont les gens que j'aime, de qui j'aime m'entourer, des gens qui sont passionnés et qui ont la passion de transmettre aussi leur propre passion. Il y a beaucoup de passion dans l'histoire.
Oui, non, mais c'est vrai.
Mais qui sont de bons communicateurs, puis chez qui on sent une vraie attirance pour le monde musical, pour les arts vivants, puis
oui.
d'en faire part et de
d'apporter finalement...
De démystifier
tout ça, aussi.
Oui, donner des clés d'écoute.
Et je pense que, bon, toi et moi... On parle aujourd'hui, on est dans cette émission et en fait, c'est ça, on veut transmettre notre passion. C'est ça qui nous intéresse finalement. C'est pas, on veut pas apporter des critiques. En fait, on n'est pas là pour démolir ou quoi que ce soit.
Jamais.
Alors, c'est vraiment le...
Beaucoup trop de respect
ça,
pour...
Tout à fait, pour le travail
oui.
acharné de nos musiciens qui sont très créatifs aussi. Qui,
les musiciens, les gens qui sont derrière, qui s'occupent de toute la logistique.
Oui.
C'est énormément d'efforts de la part de tout le monde. Puis, des fois, il y a des choses qui sont moins réussies, mais il faut voir ça comme des choses ponctuelles.
Oui, exactement. Chacun fait son expérience aussi. Et en fait, on voit aussi que bon, l'étude de la musique, parce que toi, tu as fait des études en musique, tu es altiste, tu as étudié aussi en direction d'orchestre.
Mm-hmm.
Alors, c'est tout un parcours que tu as étudié énormément, on va en parler, mais tu es allé étudier en Allemagne et tout. Alors, c'est sûr que c'est intéressant de voir que quelqu'un qui parfois n'est pas nécessairement là, qui est pas toujours en vedette, là, qui... fait beaucoup de travail, en fait, qui ne paraît pas toujours, mais qui, tu sais, t'as fait quand même des concerts un peu partout, t'as été associé à des orchestres, bon, alors, et toi-même, t'as dirigé des orchestres.
Oui, effectivement, dans bon, des orchestres amateurs ou oui.
De musique chorale, de chant choral aussi.
De chant choral aussi, oui.
Ah oui, alors, c'est très vaste, et bien là, c'est là qu'on voit tout ce qu'on peut aller chercher quand on étudie en musique. Tu sais, bien souvent, on avait le préjugé, on disait, oui, mais regarde, tu gagneras pas ta vie là-dedans, mais attention, il y a toutes sortes de façons de travailler, de gagner sa vie et de rayonner.
Il y a toutes sortes de façons, puis oui, les gens sont très créatifs pour se créer des façons
oui.
de gagner leur vie avec dans le beau monde de la musique.
Tout à fait. Puis, est-ce que tu dirais... Bon, d'abord, on va parler de tes études. Tu as étudié au Conservatoire de musique de Québec, à l'Université Laval, à l'École supérieure de musique et de théâtre de Hanovre, en Allemagne. Alors, évidemment, tu as une expérience intéressante. Donc, qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller étudier en Allemagne à ce moment-là?
Ça faisait longtemps que j'y aspirais. J'avais commencé à apprendre l'allemand. joueur d'un instrument à cordes, puis j'ai jamais aspiré à être soliste. C'était vraiment l'orchestre qui m'attirait. Alors évidemment, le paysage orchestral en Allemagne est très développé. Et puis j'ai eu la chance, j'ai interrompu mes études pendant une année, je suis allée voyager en Europe et j'ai joué de la musique avec des gens qui connaissaient celui qui allait devenir mon professeur à l'école de Hanovre. Ils m'ont parlé de lui, j'ai eu ce contact-là. Alors je suis retournée à Québec, j'ai terminé mon baccalauréat, puis je suis allée auditionner pour lui après ça. Alors c'est comme ça que ça s'est produit.
Ah bon, et puis en fait, aussi, tu détiens une maîtrise en musicologie de l'Université de Montréal. Bon, on a dit que tu avais étudié un peu partout finalement, alors c'est pas les diplômes qui manquent.
Non.
mais ça t'amène à pouvoir faire différentes choses et puis avoir une vision aussi. Je pense même de, on parle de ce que tu as vécu en Europe, mais tu peux, t'as une vision aussi de la situation des orchestres par rapport à l'Europe, par rapport à ici. Finalement, est-ce que les enjeux sont les mêmes? Actuellement, évidemment, c'est difficile de faire vivre des orchestres en ce moment.
Les enjeux sont les mêmes. C'est sûr que j'ai quitté l'Europe en 2002, mais de ce que je continue de suivre, les enjeux sont malheureusement les mêmes, mais ils partent d'une autre situation. Le financement de l'État est beaucoup plus développé, il se fie moins à la philanthropie. Ici, au Québec, je vais parler du Québec, on est vraiment à mi-chemin entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis, où aux États-Unis, c'est plus la philanthropie privée.
Ouais.
Ici, on est vraiment à mi-chemin entre les deux, mais partout, les orchestres ou les institutions musicales de quelque nature font face à des coupures, puis à un marché peut-être saturé où il est difficile de percer puis de se démarquer.
Oui, parce qu'ils sont nombreux là-bas aussi, les orchestres, les musiciens et puis tout. C'est pas évident. Donc, tout le monde doit tirer son épingle du jeu. C'est pas évident. Alors, ça t'amène aussi, Béatrice, à devenir aussi comme un peu conseillère musicale parce que tu es musicologue. Alors, tu as aussi travaillé pour des captations, c'est-à-dire tu fais un peu de la réalisation de captations.
Oui, je suis assistante réalisatrice, essentiellement, généralement auprès d'un réalisateur qui s'appelle Benoît Guérin pour une boîte qui s'appelle Prodcan. Alors, mon titre de conseillère musicale, c'est-à-dire que ça évoque pas tout à fait ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je fais le découpage des prises de vue avec le réalisateur et ensuite, je suis les partitions et je prépare les caméras pour qu'elles soient au bon endroit, au bon moment, pour que quand c'est le temps de montrer la flûte ou les timbales. Mais on reçoit un programme de concert, par exemple, si on capte un concert de l'OSM, puis alors je vais chercher les partitions, j'obtiens les partitions, puis ensuite de ça, on fait le découpage, puis on prépare tout ça.
Alors, ce sont des concerts que l'on retrouve sur des plateformes, différentes plateformes.
Oui, Medici.tv, on en a sur Stage Plus de Deutsche Grammophon, la télévision spécialisée Mezzo a montré de nos productions. On a fait aussi, par exemple, concours OSM, avec une autre équipe, le CMIM. Ça, c'est des choses qu'on retrouve sur YouTube. J'ai fait le festival de les caméras pour le festival de la Naudière. Alors, la projection sur les grands écrans, quand vous êtes assis sur la pelouse, là, en l'amphithéâtre,
ce qui est en direct, là, mais que l'on transmet sur les grands écrans. Alors, quand même, c'est toute une autre dimension de ton travail. C'est vraiment très intéressant. Et en plus de... j'imagine que ton instrument aussi... l'alto, hein, tu es altiste, comme on l'a dit. Alors, d'abord, la différence, peut-être, pour nos auditeurs, entre l'alto et le violon?
L'alto est un peu plus gros que le violon. Visuellement, ça peut être difficile à percevoir, surtout de loin à l'orchestre. L'alto est un peu plus gros et joue plus grave. Alors, très exactement, il joue une quinte plus grave. Si les cordes du violon, c'est mi, la, ré, sol, les cordes de l'alto sont la, ré, sol, do.
D'accord.
Alors, on a une corde plus grave, mais on n'a pas la corde aiguë du violon.
Ouais. Alors, le choix de cet instrument, qu'est-ce qui t'a attiré?
Le plaisir de jouer des voix intérieures, d'aller jouer les notes qui accompagnent la mélodie, qui ne sont pas la mélodie puis qui ne sont pas la ligne de basse, qui donnent une certaine couleur à l'accord, qui peuvent changer le feeling de l'accord.
Oui. Est-ce qu'on va dans les profondeurs de l'âme? C'est un peu ce que tu veux dire. Davantage avec cet instrument.
Mais effectivement, les gens aiment beaucoup, ont tendance à aimer beaucoup le velouté de l'alto, oui. la profondeur, la résonance chaleureuse de l'alto. Oui.
Oui, c'est très particulier. Alors, effectivement, il y a ça. Maintenant, direction d'orchestre, c'est un autre atout, là. Tu as étudié là-dedans, donc c'est toute une autre dimension de ton travail.
Oui. L'orchestre, c'est un écosystème. Hein. C'est un certain nombre de personnes, là, de 40 à 120, qui se rassemblent et qui travaillent sur un texte commun sous la direction de quelqu'un qui a approfondi ce texte-là. Là où la chef d'orchestre, c'est finalement le metteur en scène. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui doit avoir la vision unificatrice. Mais comme on a moins de temps de répétition, par exemple, qu'une troupe de théâtre, bien, il faut avoir un langage qui permet de communiquer rapidement et dans le moment présent, les intentions du chef d'orchestre. C'est ça la direction d'orchestre. C'est un écosystème vivant. Hein? Chaque personne contribue quelque chose, puis cette contribution-là change un temps soit peu l'impression de l'ensemble.
L'impression, c'est ça. Et bon, ça laisse bien sûr supposer qu'il n'y a pas un concert qui est exactement pareil.
Absolument.
À chaque soir, ça peut être différent.
Oui.
Plus
ou moins d'énergie, plus ou moins de d'effervescence qui se dégage, ou au contraire de profondeur.
Et tu fais aussi des arrangements avec tout ça.
Oui, j'en fais beaucoup moins maintenant, je manque de temps. En fait, essentiellement, c'était pour une professeure de violon qui appréciait que, étant moi-même professeure de violon et d'alto, elle pouvait me donner des niveaux pour l'arrangement et savoir que j'allais respecter, savoir exactement quelles notes les élèves de ce niveau-là allaient être capables de jouer. Alors,
oui,
c'est beaucoup des arrangements pédagogiques.
Tu as travaillé aussi auprès d'opéra jeunesse, entre autres. Hein?
Oui, c'est vrai. 3 opéras jeunesse, 2014, 15 et 16, qui ont été produits par le Festival d'opéra de Québec, des compositions de Nathalie Magnan, qui est une excellente pédagogue du chant à Québec et qui composait des petites pièces pour ses élèves. À l'époque, c'était à la Maison Jaune, une école de musique et d'art vivant qui s'appelait la Maison Jaune. Et éventuellement, le Festival d'opéra de Québec a repris ça, s'est impliqué là-dedans, puis il y a eu vraiment de magnifiques productions d'opéra jeunesse.
Oui, alors, et puis évidemment, tu t'es jointe à bien des orchestres, que ce soit à Sherbrooke, Drummondville, dans la région de Montréal. Et bien, évidemment, ton travail de pédagogue, très important, la transmission, ça aussi, quand on a tout ce bagage avec nous. Alors, c'est important de le transmettre.
Oui, j'ai enseigné le violon à de jeunes enfants dans différentes écoles de musique. Plus récemment, je dirigeais les petits ensembles à cordes de l'école des petits musiciens qui est reliée à l'école secondaire Joseph-François Perrault.
Oui, exactement.
Vers la fin de la... ou quand ça a repris après la pandémie, là, j'ai quitté essentiellement parce qu'avec Ludwig van Moral et mes autres activités, c'était devenu trop. J'ai enseigné aussi dans des camps de musique, comme CAMAC, par exemple, dans les Laurentides.
Mais ce fameux camp musical. Concerts les dimanches également durant l'été.
Effectivement, des beaux brunchs.
Pour le brunch.
Musique.
Alors vraiment, tout se recoupe. Et puis, évidemment, ton travail de journaliste culturel, de critique musicale, ça aussi, évidemment, ça te donne tout ce bagage, la possibilité aussi d'avoir, comme je disais, une belle vision des choses.
Effectivement, je sens un peu que c'est comme si ça rattachait tous les fils de toutes sortes de choses que j'ai fait avant qui me donnent un regard particulier, bien informé, je crois, que j'essaie.
C'est ça, donc, ça, en fait, c'est toute la pertinence de ton regard, là. Alors, justement, est-ce que comment tu vois ça, finalement, quand tu regardes tout ce parcours derrière toi? Tu es toute jeune, quand même.
Merci.
Il faut le dire, là. Je ne parle pas à quelqu'un là, je parle à quelqu'un de très jeune.
Oui, il me reste des années devant moi, professionnelles devant moi.
Oui. Tu as gagné des prix aussi, quand même?
En direction chorale, le prix Ewan Edwards. parce que j'avais aussi commencé à faire les études de direction chorale offertes par l'Université de Sherbrooke au campus de Longueuil, un très beau programme auquel plusieurs personnes, de plus en plus de personnes sont intéressées. Et puis ça aussi, ça a été un petit peu arrêté par la pandémie, là, mais oui, j'avais eu le temps de faire ça. Et dans, j'avais, le prix Ewan Edwards s'était remis... je ne sais plus.
Ben, c'est-à-dire, c'est, en fait, ça n'a pas rapport avec une bourse d'excellence, mais c'est en direction chorale que tu as...
Oui.
C'est ça. C'est vraiment... ouais. Alors, évidemment, c'est... Et puis, il y a eu d'autres... c'est ça, d'autres, finalement, dont bourse d'excellence, à en fait, d'excellence académique de la Fondation du Festival du lac Massawippi, remise
ah, voilà,
par l'Université de Sherbrooke. C'était un peu ça que tu cherchais. Hein?
Oui, c'est ça. Il y avait les deux.
C'est ça. Bon, parfait. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on fait un long résumé, mais en fait, de ta carrière, parce que tu seras une collaboratrice régulière ou, enfin, disons, occasionnelle, qu'importe. Comme je le disais lors de notre toute première rencontre, eh bien, ce sera à ta guise parce que tu es très occupée. Mais donc, c'est ça. Et puis, c'est tout ce que tu as fait, c'est vraiment très intéressant. Je voulais revenir aussi sur le Ludwig van Montréal, là, puis vraiment, en fait, il y a un choix éditorial, bien sûr, aussi. J'imagine, il y a vos coups de cœur. Il faut aimer parler de
Ah, il faut aimer parler de musique classique,
de musique
certainement.
Classique, parce de ses talents. Et oui. Il y a certainement des... aussi, j'imagine qu'on oriente par nos goûts également les suggestions. Est-ce que tu dirais ça?
Non, j'essaie d'être le plus large possible. Il y a des choses, des fois, qu'on met dans les choix de la rédaction qui ne seraient pas nécessairement mon choix personnel, mais que ça plaît sûrement à quelqu'un quelque part. Alors, moi, dans le cadre des choix de la rédaction, je véhicule l'information. Je considère que tout le monde a le droit à sa visibilité là, pour les événements qui s'organisent. Puis, c'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre tout le temps. Il y a trop un foisonnement. Il faut faire une certaine sélection. Mais j'essaie d'y aller plus en couvrant une certaine variété qu'en me limitant à mes choix personnels.
Ouais. Ben, écoute, Béatrice, ce sera intéressant de découvrir tout au long de ces chroniques que tu nous feras, ben, de découvrir ces belles suggestions. Et de toute façon, les gens ont accès à cette plateforme.
Oui, à l'adresse ludwig-van.com. Et là, vous pourrez choisir entre deux villes, Toronto ou Montréal. Ou si vous faites / Montréal dans la barre d'adresse, ça va tout de suite vous mener.
Ouais. Et c'est important aussi de dire que c'est... bon, ça fait quand même longtemps que ça existe, hein?
Ça a été fondé en 2017. Ça a été parti par Caroline Rogers, qui a investi énormément d'efforts.
De son temps,
et de, absolument. Elle a fait un travail vraiment de bâtisseur pour monter tout ça. Et puis ça a été vraiment un privilège et un honneur pour moi d'arriver là maintenant. Je suis arrivée en janvier 2024.
C'est ça. Et puis de prendre la suite des choses alors que finalement, le site était déjà bien solide. Là. Alors, vraiment. Alors, on peut effectivement la remercier de tout ce travail qui a été fait. Et puis, ben, maintenant, la suite t'appartient. Alors, merci. Puis, on aura l'occasion de partager avec toi toutes ces suggestions pour les prochaines semaines, les prochains mois. Merci.
Ce sera toujours avec plaisir.
Merci. Et puis, on va entendre du Beethoven, pourquoi pas. Hein, c'est de circonstance.
Absolument.
Voilà. Merci, Béatrice.
Merci, Chantal.
Thank you.
C'était un autre extrait de la symphonie numéro 7 de Beethoven, deuxième mouvement. C'était joué par la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirigée par le chef estonien Paavo Järvi. Quelques instants pour vous dire que les concerts et festivals sont nombreux cet été. Bien, pour célébrer son 25e anniversaire, l'Orchestre de la Francophonie réunit une cinquantaine de jeunes musiciennes et musiciens sur scène. L'orchestre, qui est une académie orchestrale, qui rassemble chaque été une cinquantaine de jeunes musiciens et musiciennes venus des quatre coins du monde. Pendant 6 semaines, dans une atmosphère à la fois stimulante et bienveillante, ces artistes de la relève sont guidés par des mentors chevronnés et vivent une immersion complète. Répétitions, classes de maître, ateliers de création et conférences, une expérience unique qui les prépare donc à occuper une place de premier plan au sein d'orchestres professionnels et à devenir des acteurs engagés d'un milieu culturel en constante évolution. Ça veut dire donc apprendre en dotant les meilleurs jeunes interprètes d'outils nécessaires à la réussite d'une carrière orchestrale professionnelle de haut niveau, innover en repensant le concert afin de le rendre toujours plus pertinent pour les différents publics et enfin partager en stimulant l'engagement social et l'implication communautaire des musiciens et musiciennes. Et bien, pour souligner aussi son engagement indéfectible et l'idée fondatrice d'un projet qui rayonne depuis maintenant 25 ans, l'Orchestre de la Francophonie a le plaisir de créer la bourse Jean-Philippe Tremblay, cette bourse qui vise à soutenir chaque année une ou un jeune chef aspirant qui pourra se former au sein de l'orchestre et poursuivre ainsi cette mission de transmission si chère à Jean-Philippe Tremblay, le fondateur. Alors, quelle belle initiative! Et si ça vous intéresse, des concerts à venir, notamment Pierre, le loup, l'oiseau et le cirque, la grande fête symphonique de l'Orchestre de la Francophonie, concert gratuit cette fin de semaine, 12 juillet, à la gare d'Alousie, hein, qui héberge, on le sait, le cirque Éloise. Alors, le concert sera dirigé par Julien Proux avec à la narration Julien Proux et Isabelle Cloutier. Et il y aura autre concert gratuit également le 18 juillet à la salle Claude Champagne avec Jean-Philippe Tremblay à la direction d'orchestre. Et sur ce, je vous invite à aller sur le site de l'Orchestre de la Francophonie pour avoir tous les détails des concerts à venir. C'est tout pour aujourd'hui. L'émission C'est classique vous revient la semaine prochaine, vendredi 11h30 et 18h30, en rediffusion le samedi à 13h et le dimanche matin à 8h30 ou en rattrapage sur le site de Canal M. Ici Chantal Lavoie. La semaine prochaine, on reçoit la harpiste Valérie Milot. À très bientôt.